Il est 6 heures.
Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif à Arras qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. On découvre cet espace porté par l'association Down Up, association qui lutte pour l'autonomie de la personne en condition de handicap dans le milieu de vie le plus ordinaire possible. On découvre également les activités de ce tiers-lieu avec Clément, coordinateur et animateur de celui-ci.
Le Perchoir, c'est un tiers-lieu inclusif qui a ouvert maintenant il y a 2 mois sur Arras. Dans l'idée, c'est de proposer un espace de convivialité qui soit ouvert à la fois à notre public de Down Up, qui est principalement atteint de trisomie 21, tout en proposant aussi un espace d'accueil pour du public extérieur. L'idée, c'est de vraiment faire de la vraie inclusion et d'avoir un endroit où tous ces différentes personnes avec les différents publics puissent se retrouver pour partager des activités ensemble, donc des ateliers, des concerts, des expositions, voilà. Donc le but, c'est vraiment créer un espace ouvert à tous, par tous et pour tous. Le projet, il émane de l'association Down Up, qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années. Il y avait déjà un espace d'accueil avant ça, qui s'appelait le comptoir 21, mais qui était plutôt réservé aux adhérents de l'association. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu une vraie volonté de s'ouvrir sur l'extérieur et de proposer cet espace aussi aux autres personnes du quartier, notamment d'Arras, etc. Donc là maintenant, ça va faire 3 mois que la nouvelle forme est opérationnelle. Et donc voilà, avec pour ambition que à partir de septembre, on soit parti pour de bon et puis qu'on ait trouvé notre fonctionnement, notre gestion, marquer un petit peu notre identité sur le quartier et par la suite un peu plus loin.
Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne concrètement au quotidien, le Perchoir ?
Le Perchoir, donc on est sur une forme bistrot, en tout cas dans la forme extérieure, parce qu'en fait le format bistrot, c'est quelque chose qui appelle à la convivialité aussi. On a tous eu nos grands-parents qui se retrouvaient sur un bout de comptoir pour échanger des moments de convivialité. Donc on a pris cette forme-là, on a fait le choix de proposer une carte sans alcool, parce qu'on trouvait ça plus en adéquation avec les valeurs qu'on souhaite défendre, montrer aussi qu'on peut s'amuser sans alcool. L'espace d'accueil ressemble vraiment à un bistrot et on propose à peu près les mêmes choses avec toujours cette volonté de mixité des publics. Le Perchoir est un projet Down Up, donc Down Up finance le projet, en tout cas sur la partie loyer, sur la partie salariat, etc. À terme, le but, c'est aussi de pouvoir devenir autonome et de pouvoir proposer une gestion qui soit indépendante financièrement. Mais le projet, pour l'instant, est encore au tout début, donc on a encore très peu de recul, finalement, sur comment ça va se projeter par la suite, en fait.
Et vous êtes combien de bénévoles au Perchoir, actuellement ?
Pour l'instant, on a une quinzaine de potentiels bénévoles, sachant que, en raccord avec les valeurs de l'association Down Up, l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des découvertes professionnelles à nos adhérents, leur apprendre des codes au niveau du travail, au niveau de comment se comporter avec un public en face de soi. La partie bénévolat, notamment avec nos adhérents, est aussi vouée, pour le coup, à pouvoir proposer une ouverture professionnelle par la suite, en fait. Le but de Down Up, c'est vraiment, dans ses valeurs, depuis 40 ans, c'était de pouvoir accompagner des personnes porteuses de trisomie 21, à la fois dans des projets personnels, c'est-à-dire obtenir un appartement, vivre en autonomie, quasi-autonomie, de pouvoir avoir une vie en milieu ordinaire classique, et aussi le côté insertion professionnelle, justement, donc c'est-à-dire être en lien avec des entreprises du territoire, de pouvoir leur proposer des stages, des alternances, savoir dans quoi ils veulent aussi s'épanouir. Et donc avec le Perchoir, justement, on a cette première approche, en quelque sorte, qui va permettre à ceux qui sont intéressés par de l'accueil public, par la logistique, par de la restauration, de pouvoir découvrir ces mondes-là. Et puis que nous, on puisse aussi les accompagner justement dans cette découverte. Que ça ne se fasse pas directement dans un milieu ordinaire où une entreprise doit avant tout faire du chiffre pour payer toutes les charges, les salaires, etc. Donc nous, on est vraiment dans cette approche un peu différente. On a une sorte de tremplin entre leur quotidien et puis un monde professionnel par la suite en entreprise.
Alors toi, du coup, ça fait combien de temps que tu es au Perchoir et c'est quoi un peu ton rôle ici ?
Donc moi, ça va faire 2 mois que je suis au perchoir. Je suis arrivé en tant que coordinateur, animateur de l'espace, parce que bon, c'est quand même une activité à part entière qui prend du temps et de l'énergie. Donc là, étant donné que les autres salariés de l'association étaient déjà bien occupés, bon, ils ont voulu ouvrir ce poste-là. Moi, dans l'idée, c'est de pouvoir à la fois gérer les espaces, parce qu'on a un espace accueil, mais on a aussi une partie team building. Donc dans l'idée, c'est de faire de l'accueil d'entreprise pour, qu'ils puissent faire des réunions d'équipe en dehors de leur mur à eux, et de pouvoir faire des ateliers autour de l'inclusion. Dans l'idée, c'est aussi de pouvoir gérer les espaces, gérer les activités qu'on va proposer, enfin pouvoir coordonner un petit peu toutes les actions qu'on souhaite mettre en place sur cet endroit.
Niveau inclusion à un RAS, on en est où ? Est-ce que... c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a déjà des choses mises en place ?
Alors, il y a déjà des choses mises en place, évidemment. Il y a beaucoup d'associations qui militent pour ça. Comme je disais, Donup, ça fait 40 ans qu'ils militent pour cette vie le plus classique possible pour les adhérents porteurs de trisomie 21. Après, il y a encore, évidemment, comme dans beaucoup d'autres villes, des choses encore à faire. Mais il y a une vraie... En tout cas, il y a une prise de conscience de la part de la commune. Là où on a de la chance, c'est qu'Arras est une ville quand même assez active, surtout sur ces questions d'inclusion, de mobilité, etc. Donc voilà, on est aussi acteur de ce changement et on donne des leviers, notamment à la mairie et à la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, pour que ça aille encore plus vite et apporter notre expertise sur comment les choses doivent se mettre en place pour l'avenir.
Qu'est-ce que, par exemple, il pourrait être fait pour avoir plus d'inclusion ici ?
Le plus important, c'est continuer le travail de médiation auprès des professionnels et des personnes individuelles pour montrer que, en fait, le handicap est loin d'être une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Il y a une personne que je connais qui a embauché très récemment une personne qui est en situation de handicap qui m'a fait remarquer que ça avait été un changement complet dans son entreprise et que ça avait été du positif plus plus. Et en fait, je pense que sur Arras, en tout cas, avec ces problématiques qui lui appartiennent, il faut continuer ce travail de médiation qu'il doit aborder depuis pas mal d'années maintenant. Et bah, en fait, que les entreprises et des bailleurs ou quoi que ce soit n'aient pas peur de se dire en fait, ça va aller.
On est toujours en compagnie de Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présente les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous.
Actuellement, l'association de Neuf, elle compte une quarantaine d'adhérents. Tous ne côtoient pas le perchoir de manière régulière, mais par contre, à terme, c'est aussi les inciter à prendre part à la vie du lieu, que ce soit sur de la programmation, sur du service, sur l'animation, enfin voilà. Pour l'instant, ils commencent tout doucement à s'emparer du projet et le but, c'est qu'en septembre, on ait déjà un petit noyau dur de personnes qui pourront à leur tour aussi former les nouveaux adhérents qui souhaiteraient s'investir dans le projet.
Quelles actions ont été faites depuis le début ?
Alors pour l'instant, voilà, on est encore au balbutiement, donc ça a besoin de prendre. On a eu le temps d'organiser 2-3 grands événements. Océane a organisé notamment les grandes lessives. On a organisé aussi la fête des voisins, avec vraiment à ce moment-là, cette volonté de montrer qu'on était ouvert à tout le monde sur le quartier. Et après, bon, c'est des personnes qui, pour l'instant... passent la tête parce qu'ils se demandent ce qui se passe ici et qu'ils prennent un petit peu la température et qu'ils se posent des questions. On a déjà pas mal de personnes qui ont osé franchir le pas et qui ont envie de devenir bénévoles au perchoir. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et puis, bah voilà, là, encore une fois, dans l'idée, c'est de continuer jusque septembre et qu'à partir de septembre, on ait une programmation qui soit vraiment bien construite et qu'on puisse lâcher les chevaux un bon coup.
Vous avez des projets d'événements pour les prochains mois, à partir de septembre notamment ?
Alors, dans l'idée, c'est de travailler avec des partenaires du territoire. Donc, par exemple, on a des projets d'exposition en partenariat avec l'Œil du Chat qui vont changer tous les mois. On fait la première en juin, là. En fait, on veut s'ancrer sur le territoire. Le but n'est pas d'aller faire le travail de ce qui se fait déjà, mais c'est travailler en partenariat avec ce qui existe déjà, justement, et d'être un support à action, en fait. Donc là, on a, par exemple, des associations de la Rajoie qui vont venir ici proposer des choses, et nous, on va accueillir et puis essayer de co-construire des programmes avec eux, en fait.
J'ai aussi vu que vous aviez un repère café pour réparer les objets. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus comment ça fonctionne ?
Une personne peut arriver sur place avec un objet électronique ou non qui soit défectueux et de proposer à des personnes qui sont un petit peu bricoleurs, qui ont envie de mettre leurs mains dans les circuits électriques et électroniques, de pouvoir réparer l'objet. En fait, c'est une incitation à la non-surconsommation. Donc là, dans l'idée, c'est vraiment qu'on puisse montrer qu'on n'est pas obligé de jeter un appareil et qu'on peut le réparer. Donc, ça marche avec des bénévoles. Et alors, évidemment, on demande quand même à ce que la personne ait un minimum de bagages techniques pour pouvoir le faire. Dans l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut réparer un objet plutôt que d'en acheter un nouveau et entraîner à cette surconsommation.
Et aussi, vous avez un objetothèque. C'est quoi le but et comment ça fonctionne ?
L'objetothèque a été créé en lien avec Tipeee, qui est un tiers-lieu qui est sur l'île. Et donc, dans l'idée, c'est de pouvoir proposer un inventaire d'objets qu'on mettra à disposition contre une adhésion à l'association. D'objets qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Par exemple, je sais pas, une tondeuse, c'est quelque chose qu'on utilise une fois de temps en temps. Et plutôt que l'objet soit stocké et ne serve pas, qu'elle puisse servir à une personne qui en aurait besoin au moment T. Donc encore une fois, c'est une incitation à re-réfléchir à nos modes de consommation et de pouvoir montrer qu'une mise en commun, elle est possible et de ce fait, se partager des objets, se partager des savoirs avec le Repair Café, par exemple. Hein, c'est aussi ça, hein, c'est montrer comment on peut réparer un objet. Donc l'objetothèque, c'est vraiment ça, c'est de la mutualisation pour des objets qui ne servent pas au quotidien.
Pour l'instant, globalement, au Perchoir, vous êtes content de comment ça se passe ?
On sent un vrai intérêt de la part des personnes qui passent devant, avec cet effet de curiosité, évidemment, mais les personnes qui ont poussé la porte sont tous convaincus de ce qu'on souhaite porter comme valeur. Comme je le disais, on est encore au balbutiement, donc il y a encore beaucoup de choses à écrire. Mais en tout cas, pour l'instant, tous les feux sont verts des retours qu'on en a. Il n'y a plus qu'à convaincre les gens de l'extérieur de oser pousser la porte et puis venir partager des moments de joie avec nous.
Vous avez encore principalement des gens atteints de trisomie 21 qui viennent et pas trop des gens de l'extérieur encore ?
Nos adhérents commencent vraiment à prendre possession de l'endroit. Les gens de l'extérieur, on va dire qu'il y a encore cette curiosité qui n'est pas encore franchie totalement. La plupart des gens qui habitent dans le quartier ont vu qu'il se passait quelque chose, mais il y a encore ce dernier pas à faire pour qu'ils puissent franchir les portes et puis venir partager un café avec eux.
C'était un entretien avec Clément, coordinateur et animateur du tiers-lieu Le Perchoir à Arras. Il nous présentait les activités de ce tiers-lieu inclusif qui propose un moment de rencontre et de convivialité à toutes et tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations du Perchoir sur leur page Facebook et aller découvrir ce lieu au 21 rue Paul-Adam à Arras. Un reportage réalisé par Léo Lagnier, montage Laura Becker pour Radio PFM.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus, une radio libre, associative, sans publicité, sur le 106,6 ou campuslille.com. Bonne écoute.
Aujourd'hui, je sors à travers la pluie. L'abondance des relents compose mon chemin. La douceur du vacarme m'en plus d'insouciance. Où suis-je? Rencontrer l'étoile, je je ne t'ai pas encore vu, Zapatiste notoire, promettre l'interprétation d'une nouvelle Renardière. Aujourd'hui, oh, je sors libéré. La fatalité est d'écrotter la chance de son pied gauche. Accroche-toi vite, philanthrope, accroche-toi vite, je m'évapore. Et qui suis-je, oh, oh, où vais-je, qui suis-je, où je suis, où je suis.
Sense is a little whack, and my friends are just as screwy as me. I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play.
Yeah. 7 au 9 juin, la 17e édition du festival d'accordéon Belle Bretelle rayonnait à Herny dans le Valenciennois. 3 jours de musique et de fêtes organisés par les bénévoles du club Léo Lagrange. Cette année, et c'est une première, des personnes en insertion professionnelle ont donné un coup de main à l'organisation. Pierre-Alexandre Damé de l'association des centres sociaux et socioculturels de Valenciennes.
Alors moi je suis ce qu'on appelle médiateur socio-professionnel, ça veut dire que je suis sur un projet européen qui vise à mettre les gens en action et à développer des compétences en fait à travers divers supports dont le festival. Et en fait c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le festival c'est un super support pour développer des compétences et que ça mettait les gens vraiment en valeur. Donc il y a des gens qui sont à l'accueil, il y a des gens qui sont au bar, il y a des gens qui sont à la sécurité, qui valident leur diplôme de sécurité grâce à ce festival. Et en fait, c'est un super support pour développer des compétences. Et surtout, c'est des personnes, des fois, qui sont un petit peu isolées, et elles se retrouvent dans une dynamique de groupe qui leur fait vraiment du bien.
Comment est né, justement, ce projet au sein du festival ?
À la base, voilà, c'est un projet européen, c'est des financements européens et c'est un dispositif qui s'appelle Quartier Insertion. Et Quartier Insertion, en fait, la vocation de ce dispositif, c'est de développer les compétences des gens à travers des projets de quartier. Donc on est sur de l'ultra local.
De l'ultra local. Et donc c'est la première année ?
Alors oui, c'est une expérimentation, c'est une première année qui normalement devrait être reconduite l'année prochaine, mais effectivement c'est une expérimentation. Donc on tâtonne, on essaye de faire au mieux pour les gens, et visiblement en tout cas, là ça fait déjà 2 jours que du coup les personnes sont dans le festival, et visiblement c'est quand même plutôt une réussite, les gens sont quand même très contents.
Pourquoi choisir le festival du Hainaut Belle Bretelle ?
Bah une fois de plus, hein, c'est pour sa localité. En fait, hein, nous, on travaille vraiment, comme je l'ai dit, sur de l'ultra local. Et en fait, au-delà de ça, c'est que personnellement, je connaissais aussi ce festival. Je sais qu'il y a une ambiance, il y a une ambiance de camaraderie, quelque chose qui fait du bien aussi à ces personnes qui sont isolées. Des fois pas, hein, elles ne sont pas toutes isolées, mais un bon nombre d'entre elles le sont. Et en fait, je savais très bien qu'en fait, il n'y avait aucun risque à les mettre dans ce collectif-là. Elles allaient être bien reçues, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elles ont été très bien reçues, et ça se passe très bien.
Concrètement, comment cela fonctionne ? Vous avez choisi ces personnes, vous leur avez attribué un poste, c'est eux qui ont choisi leur poste. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Alors, pour vous expliquer assez simplement, oui, en fait, c'est les personnes qui ont choisi leur poste, parce que nous, on n'a aucun intérêt à imposer quoi que ce soit. Donc déjà, c'est des personnes qui sont volontaires. Il n'y a eu aucune obligation de notre part de les faire venir. Donc c'est des personnes qui voulaient participer au festival. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est un travail partenarial. Et c'est ça qui est beau à souligner, c'est que on a travaillé tous les acteurs de l'insertion ensemble pour faire en sorte que ces personnes-là trouvent une immersion qui leur corresponde et qui vont leur ramener quelque chose de positif pour leur carrière professionnelle future. Je parlais tout à l'heure de personnes à l'accueil, de personnes en sécurité. C'est des gens qui ont vocation à vouloir travailler dans l'accueil, dans les mairies par exemple, ou en sécurité tout court. C'est le premier pas peut-être qui va débloquer en fait leur carrière future, et ça c'est très chouette.
Est-ce que vous pouvez nous parler de deux personnes, leur parcours et ce qu'elles font ici ?
Bah écoutez, là comme ça, je vais prendre peut-être l'exemple de Berthe qui est à l'accueil, qui a eu un parcours atypique, qui est très courageuse, très volontaire, qui a fait ses preuves et à qui on prédestine des fois, de temps en temps en tout cas, dans son parcours, au niveau de ses diplômes, etc. Des fois, on l'envoie un petit peu vers tout ce qui est un petit peu entretien. Alors qu'en fait non, c'est une personne qui doit faire de l'accueil, c'est une personne qui a le sourire, elle est faite pour ça, qui est très solaire, qui est très... Et en fait du coup là, elle est en train aussi de prouver à tout le monde qu'elle est capable de le faire, qu'elle est capable, et j'espère qu'elle trouvera quelque chose dans cette voie-là parce qu'elle le mérite, et à travers le festival, c'était l'occasion de prouver qu'elle savait faire.
Ça représente quoi d'être ici ?
Pour la plupart, ça représente beaucoup parce que, comme je l'ai dit, c'est des personnes qui sont des fois un petit peu isolées, ou des personnes qui, des fois, pas tous, hein, mais des fois certains qui manquent un peu de confiance en elles. Et en fait, d'être en action sur un projet concret qui brasse quand même 4-15 000 festivaliers, hein, on peut se le dire, hein, c'est quand même un beau petit festival. Eh ben, elles se rendent compte qu'elles sont capables, en fait. Elles se rendent compte qu'elles sont capables, qu'elles apportent quelque chose. Leur sourire fait la différence. Tout le monde leur dit, c'était super le travail que tu as fait. Et en fait, ça les fait gagner aussi en estime d'eux-mêmes. Et en fait, derrière, ça s'envisage que le meilleur pour eux, quoi.
C'est le lien social aussi, c'est recréer du lien social. Vous me parliez avant cette interview de cette personne qui avait enterré sa sœur la veille, et le lendemain, elle était au festival Belle Bretelle. C'est pour voir du monde. Il y a toujours, bien sûr, cet hommage, il y a toujours ce deuil. Mais en tout cas, c'est de rebondir.
Alors je peux pas parler à sa place, c'est vrai que pour le coup c'est un cas un petit peu délicat, mais oui effectivement Sandrine, si tu nous écoutes, en tout cas tu as fait un super festival, et effectivement Sandrine a dû faire le deuil de sa sœur quelques jours avant, littéralement elle a dû, voilà, il y a l'enterrement qui était la veille. Et au final, plutôt que rester chez elle, elle est venue au festival, elle s'est donnée à fond, elle a rencontré un groupe, elle s'est sentie soutenue, et je pense sincèrement que ça lui a fait du bien.
Quel premier bilan vous pouvez en faire ?
Extrêmement positif, en tout cas de mon point de vue de médiateur socio-professionnel qui accompagne des gens en fait à accéder à l'emploi, à développer des compétences, extrêmement positif. J'ai vu des gens qui étaient très réservés, qui en fait à travers la ferveur du festival, la chaleur humaine en fait qui se dégage de ce festival, et qui se sont sentis un petit peu poussés des ailes, hein, on va se le dire, c'est vrai, et c'est une très bonne chose, c'est des gens qui des fois ne sont pas habitués, des fois oui, des fois non. Pour certaines d'entre elles, c'était pas forcément évident, et en fait elles ont été très valorisées parce qu'elles ont fait un super travail, je tiens à le souligner, et je les remercie, je les félicite, et non, c'était super, vraiment.
Depuis le festival du Hainaut Belle Bretelle à Herny, Pierre-Alexandre Damé, médiateur socio-professionnel, nous parle de ces personnes en insertion, souvent éloignées de la culture.
Effectivement, oui, c'est des gens qui sont malgré tout éloignés de la culture, alors qu'ils n'habitent pas forcément loin, mais c'est des gens qui ne sont pas forcément véhiculés, qui ne connaissent pas le festival, et en tout cas qui des fois ont des craintes à pousser les portes des lieux culturels. Et en fait, c'est là où le festival Hainaut Belle Bretelle prend tout son sens, c'est que c'est un festival au plus proche en fait de la culture locale, et les gens justement, ils n'ont pas besoin de pousser les portes parce que les portes elles s'ouvrent d'elles-mêmes en fait devant eux, et c'est très très bien.
Il y a vraiment du lien qui se crée, une sorte de famille.
C'est exactement ça, et effectivement, je pense que les personnes n'avaient pas forcément prévu de revenir, elles sont venues sans trop savoir à quoi s'attendre, elles y ont découvert une famille, elles ont découvert une atmosphère, quelque chose de fraternel que peut-être ils connaissaient pas, ou pas tous, hein, mais en tout cas, ça a fait du bien à énormément d'entre eux, et effectivement, ils sont extrêmement motivés à l'idée de revenir l'année prochaine.
Ça aide aussi un festival qui met en valeur l'inclusion.
Effectivement, le festival Hainaut Belle Bretelle, j'ai pas peur de le dire, je le trouve extraordinaire dans le sens où en fait il y a vraiment tous les publics qui s'y croisent. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc effectivement, il y a les personnes que j'accompagne dans le cadre d'un retour à l'emploi. Il y a les loulous de Captain. Les loulous de Captain, des personnes qui sont atteintes de handicap, qui sont là, qui donnent tout leur cœur pour faire vivre le festival et qui le font merveilleusement bien. Et voilà, et dans le festival lui-même, hein, tu l'as vu toi-même, il y a de tous les genres. Et en fait, c'est un brassage culturel qui est assez exceptionnel et qui fait du bien à voir, quoi.
Du coup, un festival comme le Hainaut Belle Bretelle, un festival musical transfrontalier, peut être aussi comme on l'avait dit en début d'interview, un terrain d'expérimentation aussi sociale.
C'est exactement ça en fait. Là, on avait pris le pari, pour l'instant, pour nous aussi, c'était une expérimentation. Et je suis extrêmement content personnellement, mais c'est pas que moi. Je parle au nom des gens qui sont venus travailler avec nous en tant que bénévoles. Ils sont extrêmement satisfaits, ils ont rigolé, ils ont passé un super bon moment. Ils se sont sentis intégrés à une petite famille et ça leur a fait vraiment du bien. Ils en avaient besoin.
À l'accueil du festival, faisons connaissance avec Berthe.
Alors, je suis arrivée ici à travers le bien de Madame Amélie de Grave, qui travaille au Pli de Valenciennes, et de Monsieur Pierre. Donc, du coup, je suis intéressée dans le domaine de l'accueil. Donc, ils m'ont proposé cela parce que j'ai jamais assisté à un festival, c'est la première fois, et franchement, ça se passe bien et je m'y plais.
Alors, vous découvrez ici le festival du Hainaut Belle Bretelle. Quel est votre poste ? Quel est votre rôle ?
Mon rôle est d'accueillir les visiteurs, ceux qui viennent pour le festival. Alors, je leur donne un bracelet qui leur donne accès, c'est gratuit. Et on contrôle les sacs. La nourriture de l'extérieur ne rentre pas, pas de boisson, juste des bouteilles d'eau. On leur donne nos programmes et des bouches-oreilles, voilà.
Pourquoi vous avez choisi ce rôle d'accueil ?
J'ai choisi ce rôle parce que je suis ouverte aux inconnus. Je ne suis pas du genre enfermée. Je n'ai pas du mal à aller vers des personnes étrangères, aborder des sujets, mais forcément, il y a des limites et du coup, j'aime ce métier.
Alors, comment on vous a accompagné pour être ici à ce poste ?
J'ai eu deux rendez-vous. J'ai été au centre social de Fresnes. Ça s'est bien passé à travers M. Pierre. On a eu des rendez-vous et on nous a expliqué le cheminement de ces trois jours. Et franchement, arrivé ici, j'ai une responsable, Mme Christelle, qui s'occupe très bien de nous. Et les deux jours, ça a été que du positif venant de d'autres personnes, des journalistes et tout, que je suis une bonne personne. Et ce matin, j'ai eu l'opportunité d'avoir un bracelet en or. Voilà.
Ça symbolise quoi ?
Ça symbolise la satisfaction de mes services, en fait. Voilà.
La satisfaction des services. Et vous, personnellement, d'être ici, un festival de musique comme ça, vous connaissiez Belle Bretelle ?
Non, du tout. Ça fait 10 ans que je suis en Europe, je n'ai jamais entendu parler. J'ai vu les affiches et tout, et à travers ma conseillère, elle m'a dit « Berthe, je vous envoie parce que dans ce domaine, vous voulez travailler, et je vous vois dedans, vous êtes brave, allez-y. » Et du coup, je suis arrivée, c'est la première fois, et je suis dans le bain, il y a l'ambiance, à manger, il y a des inconnus, on se fait des câlins et tout. Tout se passe bien, franchement, c'est une belle expérience pour moi.
Et vous aviez pensé, vous, à un festival de musique ou pas du tout, dans votre cursus ?
Non, pas du tout. Moi, je vise plutôt dans les mairies, des centres sociaux, dans des associations et tout, mais un festival de musique, jamais. C'est une première et franchement, je crois que l'année prochaine, je vais refaire.
Vous revenez alors ?
Oui, je reviendrai avec plaisir.
Ça a changé aussi votre réflexion sur le métier, travailler dans la culture. Pour vous, travailler dans la culture, vous dites c'était pas fait pour moi ou vous dites voilà, je connaissais pas l'accordéon, donc peut-être que c'était un frein ?
L'accordéon quand même, je connaissais. Depuis mon pays, je connais l'accordéon. Chez nous, mais de voir du monde, revenir de partout, parce que lorsque j'enregistre, les gens venaient d'où ? De Metz, de Tours, de Montpellier, de Belgique, de partout. Je suis choquée, parce que pour un festival, je me dis, c'est tellement grandiose et tout. Non, je me retrouve. Franchement, travailler dans ce domaine, c'est pas parce que c'est un festival de musique et tout, mais j'ai aimé, je peux postuler aussi dessus, mais je crois que c'est rien que pendant l'été, donc je crois pas que j'irai là-dessus.
Il y aura un après pour vous, l'après-festival, peut-être d'intégrer l'association du club Léo Lagrange, de faire d'autres festivals sur le territoire.
Ah oui, j'ai eu des propositions. J'ai deux propositions.
Quelles ?
De revenir l'année prochaine, même si je travaille, de me reprendre les 3 jours. Donc je serais vraiment très enchantée de revenir.
Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Déjà ces 2 jours, c'était très intense quand même.
Ces 2 jours, franchement, ça m'a apporté vraiment de la joie, de la motivation, une gaieté. Franchement, ça m'a apporté que du positif. Franchement, les 2 jours, ça a été... Aujourd'hui, c'est pire, il y a plus de monde. Les 2 premiers jours, je n'ai pas dépassé les 500 personnes et là, j'y suis. Donc aujourd'hui, c'est encore pire. Franchement, c'est une belle expérience.
Le dispositif quartier d'insertion au festival Hainaut Belle Bretelle à Herny, dans le Valenciennois, dans le cadre d'un projet européen. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Si un jour tu reviens mon amour.
Accueille la 112e édition du Tour de France à partir du 5 juillet. Le 7 juillet, la troisième étape partira de la ville de Valenciennes jusqu'à Dunkerque. 172 km qui traverseront les villes de Saint-Amand-les-Eaux, Orchy, Seclin, Béthune ou encore Cassel. Dans l'Athènes du Nord, le Tour de France est un événement très attendu, comme l'explique Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme et de la Cité des Congrès. Réalisé lors de l'étape des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France.
Effectivement, c'est une très belle opportunité pour la ville et pour la destination, une opportunité médiatique, une opportunité de pouvoir accueillir le monde entier. On est sur des courses internationales avec une fréquentation internationale également. Et puis de se dire qu'en dehors de la course, les personnes vont passer par Valenciennes, vont voir des images de Valenciennes et vont avoir envie d'y projeter un séjour. Donc c'est pour ça qu'on accompagne ces grands événements.
Quelle est votre place au sein de l'organisation? Vous êtes aussi dans les réunions?
Oui, il y a tout un ensemble de réunions, sécurité, accueil, tout un dispositif pour pouvoir envisager aussi le meilleur accueil possible. Quand on parle du Tour de France, on parle de 30 000 personnes au minimum qui peuvent venir sur Valenciennes avec des restrictions de circulation. Donc comment bien accueillir tout le public et comment surtout lui donner envie de revenir pour y séjourner et pour y vivre une expérience touristique beaucoup plus longue.
C'est un vrai coup de projecteur sur Valenciennes. Comment on en profite ?
On essaye de profiter de tout, on essaye d'être au plus près du public, comme aujourd'hui, être au contact direct de ce public. Ça se prépare sur les réseaux sociaux, ça se prépare sur, avec les restaurateurs. On a aussi des partenariats pour des mises en valeur de restaurants. Et puis dans l'accompagnement de nos partenaires touristiques pour qu'on ait ce maillon et cette chaîne d'accueil et d'hospitalité chère au Nord et encore plus chère sur Valenciennes au niveau de l'accueil.
Vous ressentez déjà quelques mois du Tour de France, on va dire quelques semaines déjà maintenant, vous ressentez dans les réservations, les nuitées, l'hôtel, la restauration
Oui, alors on a les premiers indicateurs qui sont très positifs avec les équipes, le staff ASO, organisateur du Tour de France. Et puis là, on voit qu'il y a de la nuitée touristique qui vient s'additionner. On sait aussi qu'il va y avoir des nuitées qui vont être concentrées sur Valenciennes, parce que Valenciennes a aussi ce rôle d'être proche de toutes les villes qui vont être ville départ, ville d'arrivée. On est quand même dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir 4 jours de course. Et Valenciennes peut jouer ce rôle aussi d'appui pour les nuitées. Et on est facilement après sur les autres destination par train ou par automobile, c'est très facile.
Je suppose qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent vous voir en disant comment on vient pour le Tour de France. Ça se précise là où vous avez déjà des pistes?
Oui, tout à fait. On a les premières demandes effectivement sur l'organisation. Je viens avec un camping-car, je viens en voiture, je viens en train, où je suis habitant et je voudrais savoir où est le meilleur endroit pour profiter de toutes les animations. Donc là, on a toutes les informations sur les lieux où seront implantés les villages départ, les villages gastronomiques, les bus cars des coureurs. Donc voilà, on a une très bonne idée de la logistique. Donc on accompagne après chacun, soit par nos réseaux, soit par le site internet et surtout aussi par notre site d'accueil du Monde Piété derrière le Musée des Beaux-Arts.
Comment aussi l'ensemble de Valenciennes Métropole pourra en profiter ?
Oui, tout à fait. Donc tout est concentré sur la ville, mais bien sûr, au-delà de la ville, c'est le territoire qui rayonne. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir capter ces personnes, de pouvoir leur montrer que Valenciennes, ils ont déjà un impact très positif quand ils sont sur l'événement, mais que Valenciennes, c'est aussi une dimension nature avec le parc naturel Scarpesco. C'est une dimension aussi patrimoine avec le patrimoine rural du sud du Valenciennois. C'est le patrimoine UNESCO de la mine et la dimension artistique de la ville. Et donc ça, c'est plein de choses qu'ils ne verront peut-être pas parce qu'il y aura un ensemble de caravanes et de villages qui sera installé sur Valenciennes. Mais nous, on surfe sur ce premier avis positif de leur venue sur Valenciennes pour pouvoir les accompagner sur une projection de séjour.
À l'Office de tourisme, le Tour de France se vit avant, pendant et après. Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme.
Il y a presque un redémarrage derrière le Tour de France où on va pouvoir capitaliser sur les images qui auront tourné. On va pouvoir aussi enclencher des nouvelles actions vers la presse internationale où on aura aussi cet effet, on pourra dire, vous vous souvenez, c'était la troisième étape du Tour de France, ils sont partis de Valenciennes. Donc c'est vraiment très important, c'est effectivement un des gros enjeux avant, pendant et après. Et on est dans une destination qui continue à monter sur la partie loisirs, donc voilà, on prend toutes ces opportunités, on les transforme pour qu'on ait les meilleurs résultats possibles.
Le Hainaut est une terre de vélo. Juste à côté, évidemment, il y a la porte du Hainaut avec les grandes courses cyclistes. Mais vous voulez faire en sorte que Valenciennes ne soit pas en reste?
Oui, et après on réfléchit très largement et non. On sait qu'un touriste ne viendra pas sur un territoire à l'échelle d'une agglomération. Pour lui, venir à Valenciennes, c'est d'être dans le Nord, c'est d'être quasi en Belgique. Donc il faut qu'on unisse toutes nos forces et on est très content d'avoir cette marque internationale du Paris-Roubaix qui est sur notre territoire, sur la Porte du Hainaut, de la dynamique aussi sur la Porte du Hainaut, sur du vélo, qui complète celle qui est sur Valenciennes Métropole. Donc voilà, unissons nos forces parce que le tourisme, il n'a pas de frontières. Donc il faut surtout qu'on puisse développer la collaboration, l'attractivité large et bah après nous de transformer en nuitée pour que ça fasse des retombées économiques sur notre territoire.
Il va y avoir des visites spécifiques, vous allez profiter du Tour de France, est-ce que vous pensez faire par exemple un city tour sur les lieux du passage du Tour de France? Comment vous pensez réfléchir à l'après?
Alors c'est compliqué parce que le City Tour en fait c'est pas compliqué, c'est assez facile parce que le City Tour, le tour protocolaire des coureurs à Valenciennes, c'est déjà un tour qui emprunte beaucoup de spots touristiques. Donc nous on a ce qui est juste derrière vous, un tuk-tuk électrique. C'est un petit véhicule électrique à trois roues qui peut emporter quatre personnes et on propose des visites guidées tout l'été. Donc ça commence le 5 juillet, donc juste avant le week-end du Tour de France. Et puis on accompagne pendant une heure les clients sur les boulevards, sur le centre-ville et ils peuvent voir déjà toutes les spots patrimoine et cadre de vie de la ville de Valenciennes.
Et puis favoriser la mobilité douce.
Tout à fait, et surtout accessible à tous, hein, que ce soit des enfants, des personnes qui ont du mal à se déplacer aussi. Et on est électrique, donc une douceur, et c'est ce qu'on appelle la Dolce Vita valencianoise, cette idée de profiter de la ville, cheveux au vent et sourire aux lèvres.
Là, il y a le soleil, justement, on vit un petit peu une Dolce Vita aujourd'hui pour le départ de ces 4 jours de Dunkerque à Valenciennes. Ici, c'est un premier échauffement du Tour de France ?
Ouais, c'est une très très belle mise en bouche. On est ravis. Effectivement, le temps ne peut que souligner tous les efforts de tous les partenaires pour l'organisation de ces événements-là. Et oui, on se projette déjà dans cette saison estivale qu'on espère tous très prometteuse, très fournie. Et puis on voit aussi que sur la métropole, il y a un dynamisme avec d'autres partenaires, la Cité des Congrès. On a un ensemble d'événements. On est parti là sur une saison riche en événements.
Et qu'on pense les leaders lors des sprints. Intermédiaires, ceux qui ont donné du cœur gagneront le maillot vert.
À quelques semaines du passage du Tour de France et de sa caravane, Vincent Simonet nous explique ce qu'il reste à faire à Valenciennes.
Ça sera toute la montée en puissance de la communication autour de l'événement, le fait de pouvoir aussi travailler sur les points d'accueil, sur les parkings, sur les différents lieux pour pouvoir orienter les visiteurs qui vont venir de loin et qui seront relayés sur des parkings, des parkings un peu plus lointains, mais sur lesquels on va assurer une mobilité vers la ligne d'arrivée la plus facile et la plus agréable possible. Et puis accompagner aussi nos partenaires, hôteliers, restaurateurs, sur la communication de l'événement.
Il y a une vraie communion aussi entre hôteliers, restaurateurs pour cet événement international.
Oui, tout à fait. L'accueil ne peut pas reposer que sur un unique office de tourisme. On est vraiment sur l'ensemble des partenaires. Et voilà, on sait que tout le monde va passer par un hôtel, un restaurant à un moment donné dans sa découverte du territoire. Et donc, il faut qu'on soit tous unis et qu'on donne tous ensemble cette très belle image à l'occasion de cet événement.
Et cyclistes comme visiteurs, quand ils viennent dans le Nord, ils veulent goûter évidemment les produits régionaux. Là aussi, c'est le local qui sera mis en avant.
Ouais, tout à fait. En plus, ça rejoint notre mission permanente de la mise en valeur des produits locaux et des producteurs locaux. Donc, c'est effectivement la mise en valeur des restaurants qui vont travailler ces produits-là. C'est aussi dans notre boutique à l'office de tourisme, la mise en valeur des producteurs, que ce soit du miel, du chocolat, de la bière, de la limonade, de toutes les spécialités qui sont faites made in Valenciennes. Et puis, on sait que les cyclistes, ils pourront revenir chez nous parce qu'on a aussi des réseaux point neutre, ces systèmes qui permettent de pouvoir accompagner des grandes randonnées pour faire de la grande itinérance à travers le bassin minier.
Comment une ville comme Valenciennes, une grande ville, est une étape du Tour de France? Parce qu'il faut s'organiser, mais c'est aussi bousculer un petit peu les habitudes, que ça devienne aussi un terrain de sport.
Oui, tout à fait, mais c'est toute la force de la ville, de l'agglomération, de pouvoir se mobiliser, de pouvoir mobiliser tous les services, réfléchir ensemble, construire ensemble et innover ensemble. Il y a toujours cette touche valencianoise de créativité qui ressort et donc c'est ces défis-là qui sont relevés haut la main et qui sont très plaisants à vivre parce qu'on est sur des tours de table très larges où ça ne se limite pas qu'à des effets de sport et de sécurité, mais on intègre vraiment tous les partenaires pour faire rayonner l'événement.
Sans pression, mais vous êtes prêt à accueillir le monde?
Ouais, avec grande envie. Ouais, grande envie. La pression, c'est la pression de bien le faire, et ça, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais avec beaucoup d'envie, ouais.
Le 7 juillet, Valenciennes accueille la troisième étape du Tour de France. Rencontre avec Vincent Simonet, directeur général de Valenciennes Tourisme, réalisé lors de l'étape à Valenciennes des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Reste pour les icônes.
Radio Campus 106,6 MHz sur la bande FM.
Is God a dog? Question vague, on est servi. Je navigue à vue dans le fog de cette vie, de cette nuit.
Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin. Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin.
Fauché comme le blé qui me manque, j'ai braqué la banque. Manque de bol, méchant, c'était mince. Y'a un os dans mon casse, ça coince, et les flics me passent les pinces.
Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin. Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin.
Je travaille du chapeau sur la paille du cachot. Je m'évade en rêve, je rêve de vagues, j'essore. Je rentre les cités.
Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin. Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin.
Mon QG c'est ici, et j'en ai pour un bail. J'ai le feu au QI, dans ma tête ça déraille. Être free ou frais, se faire coffrer pour du fric, ou vivre sans ferraille.
Être libre et friqué, faire les frais de ses fracs, au trou pour quelques briques, emmurées pour de la maille.
Être free ou au frais, se faire coffrer pour du fric, ou vivre sans ferraille.
Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin. Chien de vie, vie de chien. Roulette russe et coup de rouquin.
Le cul en bouillie, comme un café foutu. Dans ma tête c'est tout cuit, dans ma tête c'est tout fou. Le QI en bouillie, comme un café foutu. Dans ma tête c'est tout cuit, dans ma tête c'est tout fou. Is God a dog?
Sprout ears and the light drips away. I heard
heard your mama scream in the door. Your daddy passed out on the kitchen floor. The life was gone from his body, like pigeons stealing bread out of your hand. He left you to face the world. He's barely old enough to understand. Daddy's boy, don't be sorry. His blood buried deep in the ground. His blood's flowing in your veins. Handed down. Handed down. Some say that he worked harder than the mule that he plowed. Wake from his slumber long before the sun showed its face through the dark. He built the house he was born in. The trees he cut off his brother's land. When you stood there beside him, felt as though he'd fit you in the palm of his hand. Daddy's boy, don't be sorry. His blood buried deep in the ground. His blood's flowing in your veins. Handed down. Handed down. Man, still alive in this ground. Take the front door from its hinges. On it they lay your daddy's body down. Well, there wasn't a thing you could have done to save him from his own chains. Now the earth lies still neath the moon. The stone where they carved out his name. Daddy's boy, don't be sorry. His blood buried deep in the ground. His blood's flowing in your veins. Handed down. Handed down. Out there. There ain't no future or no past. And the whole world sits still, balanced perfect on a blade of grass. You can see your daddy's face, foggy with heat from the day's clothes. You can feel his beard brush your cheek, and his heart beat